Les discussions du soir. Les discussions du soir, chaque mercredi, Lélie Anvar explore les spiritualités du monde entier, leur littérature et leurs arts sacrés.
Et si nous acceptions de changer de regard radicalement sur nos enfants et sur nous-mêmes, sur nos manières d'envisager l'éducation, si nous faisions plus confiance aux lois naturelles qui régissent le développement de l'être humain, lois naturelles que les sciences cognitives nous permettent aujourd'hui de mieux connaître et qui sont désormais à notre portée pour peu que nous prenions la peine de nous intéresser à ces questions fondamentales qui engagent ce que sera l'avenir des futures générations et donc de l'humanité dans son ensemble. Pour évoquer ce sujet passionnant, j'ai la joie de recevoir Céline Alvarez, la lauréate du prix Psychologie Magazine, partenaire de notre émission pour son ouvrage « Les lois naturelles de l'enfant » paru aux éditions Les Arènes. Bonsoir Céline Alvarez.
Bonsoir.
Vous avez mené une expérience dans une maternelle en zone d'éducation prioritaire à Gennevilliers et vous avez obtenu des résultats qui ont dépassé vos espérances. Vous racontez cette expérience et les bases à la fois philosophiques et pratiques de ce travail dans votre ouvrage « Les lois naturelles de l'enfant » mais aussi sur votre site celinealvarez.org. Si certains aspects de votre approche restent relativement techniques dans le sens où ils développent des méthodes d'enseignement, d'autres, au contraire, s'adressent à tout un chacun et nous invitent à réfléchir sur la question cruciale de l'éducation et nous invitent aussi à ne pas avoir peur d'opérer une révolution dans nos mentalités. Et c'est principalement cette dimension éthique de votre approche qui va nous intéresser ici. Alors votre livre, Céline Alvarez, a connu un immense succès en fait dès sa parution en 2016. Mais c'est un succès qui est aussi qui s'accompagne de réactions parfois très violentes. Comment expliquez-vous à la fois ce succès et cette résistance, en particulier du corps enseignant, au fait que vous proposiez quelque chose que vous présentez quand même comme une révolution?
Alors je pense que cet accueil à la fois positif et négatif, ce sont les deux mêmes faces de la même médaille. Enfin, ce sont les deux faces de la même médaille, parce que et ce sont des réactions dans les deux cas, je pense, assez positives, parce que finalement que le livre soit accueilli très positivement par certains enseignants, c'est formidable, parce que souvent il s'agit d'enseignants qui en fait étaient déjà engagés dans ce type de démarche, dans ce type de réflexion, et qui se sentent soulagés que quelqu'un mette des mots sur ce qu'ils ressentaient ou légitimise la démarche dans laquelle ils étaient déjà engagés depuis plusieurs années. Donc en ça, c'est quand même quelque chose de très positif. Ça veut dire que sur le terrain, il y a déjà beaucoup de monde qui entre dans ce type d'approche. Et pour les personnes qui réagissent, j'aime pas dire négativement, mais qui réagissent, qui sont dans la réaction justement, ce sont aussi des personnes qui sont engagées dans une réflexion, dans la recherche pédagogique, dans l'innovation, qui essaient déjà d'offrir le meilleur à nos enfants et qui se sont senties un peu bousculées par les prises de parole que j'ai pu avoir ou qui m'ont été offertes. Ils se sont sentis un peu agacés par tout cela, parce qu'ils auraient aimé aussi peut-être avoir la parole et exprimer tout ce qu'ils ont à exprimer et à dire. Donc finalement, que ce soit des réactions positives ou entre guillemets négatives, elles témoignent toutes qu'il y a vraiment une effervescence sur le terrain, un bouillonnement et des gens qui ont envie de faire avancer les choses. Donc voilà, moi je suis très heureuse de tout ça.
Oui, alors il y a cette idée évidemment qu'il y a presque une révolution silencieuse qui est déjà en marche, dont finalement vous rendez compte en faisant une sorte de résumé, ou en tout cas une proposition qui n'est pas que de vous. Vous prenez quand même beaucoup d'idées aussi, et vous le reconnaissez, vous citez vos sources. Simplement, vous vous êtes donné la peine, disons, de mettre ensemble toutes ces idées et surtout de tenter une pratique dans un cadre dans lequel, habituellement, on n'autorise pas ce genre d'innovation ou de nouveauté, disons.
Exactement. Moi, c'est mon objectif en démarrant l'expérience que j'ai menée à Gennevilliers en maternelle, c'était vraiment de mettre un bon coup de pied dans la fourmilière et de reprendre les travaux de personnes qui s'étaient déjà engagées et qui avaient déjà ouvert cette voie le siècle précédent, hein, Maria Montessori, et puis encore avant elle, Édouard Séguin. Et je me disais, mince, c'est quand même pas possible. On a des outils pédagogiques qui permettent de respecter ces lois fondamentales et naturelles de développement et d'apprentissage de l'enfant, parce qu'elles avaient été pressenties, ces grands principes avaient été pressentis par de grands pédagogues. Et on a ces outils-là et on ne les utilise pas, parce qu'aujourd'hui, nous sommes encore dans des démarches et des discussions très idéologiques, des débats d'opinion assez stériles finalement. Et je me suis dit, c'est quand même dommage, on a aujourd'hui la recherche en sciences du développement humain qui confirme ces principes qui ont été ressentis par des nombreux pédagogues auparavant. Et on a en plus les outils, puisqu'ils avaient déjà commencé à y réfléchir. Donc il faut absolument montrer que dans un quartier populaire, dans le public, avec des enfants en bas âge, on peut avoir un impact extrêmement positif en utilisant ces outils qui se fondent sur des principes scientifiques maintenant avérés.
Alors, je précise, Céline Alvarez, qu'au départ, vous n'étiez pas enseignante. Enfin, d'ailleurs, vous ne l'êtes toujours pas, puisque vous avez donné votre démission. Mais enfin, vous avez quand même passé le concours de professeur des écoles, comme on dit aujourd'hui, pour pouvoir précisément mener ce travail véritablement sur le terrain, en tant qu'institutrice, même si ce mot n'est plus officiellement utilisé. Mais alors, d'où venez-vous ? Alors, vous avez fait ce travail pour aller dans une école et pratiquer, mais quel est le contexte d'où a émergé en fait l'idée de faire une chose pareille? Donc quelle est votre formation au départ et qu'est-ce qui vous a donné l'idée de vous intéresser à ces questions de pédagogie en association avec justement les avancées des sciences cognitives?
Je ne sais pas d'où ça me vient. je cherche parce qu'on me pose souvent la question, mais c'est vrai que depuis toute petite, c'est quelque chose qui me passionne, m'indigne, me révolte, m'attriste, la question de l'éducation, parce que je ne saurais pas dire pourquoi, mais j'ai une foi et une confiance très forte, très puissante en l'être humain, en ses potentiels embryonnaires que j'ai toujours pressenti comme extrêmement positif. Et j'ai toujours trouvé triste et regrettable qu'on n'offre pas des environnements physiologiques, c'est-à-dire des environnements d'apprentissage qui respectent et soutiennent les mécanismes naturels d'apprentissage et d'épanouissement humain. Et j'ai trouvé toujours ça regrettable parce que en entravant la manière dont l'être humain se développe, on se retrouve avec des êtres humains qui sont en sous-régime, en sous-potentiel, ou pire, leurs potentiels innés sont déviés. Et je me suis dit, déjà, voilà, toute jeune, je me rappelle, c'était déjà, j'avais ce sentiment-là en CE2, CM1, et après, ça n'a fait que se confirmer dans les années qui ont suivi. Je voulais comprendre et définir quel serait l'environnement d'apprentissage, de vie le plus physiologique pour l'être humain en développement.
Mais c'est-à-dire que vous avez souffert de l'école ? À l'école, vous avez souffert, vous avez ressenti quelque chose n'allait pas, je veux dire, aussi pour vous-même, pas seulement pour les autres, Céline Alvarez.
Mais pour moi et pour les autres, c'est vrai que j'ai eu finalement la chance de grandir dans un environnement plutôt défavorisé, sur la dalle d'Argenteuil, donc en quartier dit d'éducation prioritaire.
Alors ça c'est magnifique. Vous dites j'ai eu la chance de grandir dans un milieu défavorisé. Ce n'est pas souvent qu'on entend ça, donc je le souligne quand même.
Alors, c'est une grande chance et je suis toujours très émue en parlant parce que j'ai eu la chance également de pouvoir côtoyer ensuite dans ma vie plusieurs milieux. Et je ne peux que le redire ensuite, ce fut vraiment une chance extraordinaire parce que j'ai rencontré des personnalités et des lumières extraordinaires. Et c'est justement en ayant été confrontée à ces personnalités si, si belles, toutes petites, parce que j'y suis allée dès la maternelle, et puis j'ai grandi vraiment, je suis née là-bas et je suis partie à mes 18 ans, et donc j'ai fait toute ma scolarité là-bas, et j'ai rencontré des toutes petites, des personnalités merveilleuses, drôles, extrêmement uniques et créatives, et puis entières, extrêmement entières, et puis progressivement avec l'école, il y a quelque chose qui s'est perdu. La couleur de chacun s'est perdue en route. Et il y a eu un éloignement aussi de comment dire, l'échec scolaire, qui n'est, parce que l'école n'étant pas du tout adaptée à la façon dont apprend l'être humain, ces enfants-là se sont retrouvés rapidement en échec, se sont déconnectés d'eux-mêmes, déconnectés des autres, puisqu'il n'y avait pas le milieu familial pour soutenir et apporter ce que l'école ne pouvait pas apporter, puisqu'il n'y a pas d'individualisation à l'école. Donc souvent, ce qui se passe dans les milieux favorisés, c'est que ce que l'école ne peut pas apporter à l'enfant, on l'apporte à coup de cours particuliers le soir après l'école. Quand dans les milieux défavorisés, on ne peut pas faire ça. Donc les enfants décrochent. Et en décrochant, ils se détachent d'eux-mêmes, des autres, et ça génère une grande violence. Et donc, c'est à partir de là que je me suis dit, c'est pas possible. On peut pas se permettre de perdre toutes ces belles couleurs, toutes ces lumières individuelles qui sont nécessaires au collectif, à cette société que nous sommes en train de créer. On peut pas se permettre de gâcher ces potentiels humains-là, ces belles personnalités humaines. Ça m'a vraiment profondément attristée. Vraiment, c'est une émotion qui était très forte chez moi. Et donc, comme je vous le disais, très rapidement, je me suis dit quel serait le type d'environnement qui n'entraverait plus tout cela et qui permettrait au contraire de révéler toutes ces belles personnalités et tous ces potentiels que je pressentais comme innés, embryonnaires, que sont les potentiels moraux, empathiques, cognitifs, créatifs, etc. Et c'est devenu rapidement pour moi une obsession et une grande urgence. Donc j'ai travaillé ensuite en Espagne, au Togo, pour aller un petit peu me confronter à différents types d'environnements, différentes langues aussi, pour comprendre quels seraient les invariants finalement qui seraient nécessaires au développement humain. Et bien sûr, je me suis intéressée après aux travaux du docteur Maria Montessori. Oui,
alors justement, vous dites, vous avez voyagé pour comprendre. Est-ce que vous avez dans vos voyages constaté que ça se passait mieux ailleurs, ou est-ce que c'est un constat général que globalement l'école a plus tendance à abîmer les êtres qu'à les élever?
Pour moi, c'est un constat général. Enfin, je ne suis pas allée dans tous les pays. Vraiment, j'ai peu voyagé par rapport au nombre d'expériences que j'aurais pu avoir dans le monde. Mais dans les expériences qui m'ont été données, en tout cas, c'est toujours ce que j'ai observé, qu'on est vraiment... qu'on fonctionne tous, autant enfants qu'adultes, en sous-potentiel par rapport à ce qu'on pourrait être réellement. Je crois que nous ne connaissons pas véritablement notre vraie nature, nous n'avons pas eu la possibilité de la révéler pleinement.
Mais alors, pourquoi c'est comme cela? Puisque, après tout, vous expliquez qu'il s'agit de lois naturelles. Si ce sont des lois naturelles, comment ça se fait que depuis des siècles, finalement, et malgré les travaux de tous ces effectivement pédagogues, on va y revenir en particulier, on va parler de Maria Montessori, mais de Rousseau à Edgar Morin, qui est encore en vie, donc il y a beaucoup, beaucoup de personnalités qui ont pensé l'éducation et qui l'ont pensé précisément en référence, c'est pour ça que je cite Edgar Morin, qui l'ont pensé en référence à ces lois naturelles. Rousseau parle carrément des lois naturelles, il emploie l'expression, je ne sais pas si c'est à lui que vous l'avez emprunté.
Non, je ne savais pas.
Mais voilà, donc il emploie vraiment l'expression en disant que dans l'éducation, il y a trois facteurs, évidemment, il y a les lois naturelles, il y a l'expérience et il y a ce qui nous est donné par l'éducateur. En gros, c'est ce que vous dites aussi. J'ai vraiment retrouvé tous ces accents rousseauistes. Mais alors, pourquoi, alors que tant de gens ont pensé l'éducation, on peut aussi penser aux maîtres spirituels indiens qui, depuis des siècles, en fait, pensent l'éducation en termes de libération, en termes de développement des potentialités naturelles, etc. Pourquoi les sociétés n'écoutent pas cette parole de sagesse? Céline Alvarez, à votre avis?
Alors, moi, je pense que la société l'écoute de plus en plus. Je pense qu'on va vraiment vers une assimilation, une intégration, une appropriation de tous ces contenus-là, entre guillemets, de plus en plus forte. Mais c'est vrai que pourquoi ça ne passe pas beaucoup plus rapidement dans le collectif? Mais je pense tout simplement parce que les préjugés, les traditions sont extrêmement difficiles à défaire. On en parlera peut-être tout à l'heure, mais une fois que l'être humain a construit des réseaux neuronaux solides, c'est-à-dire qu'il a acquis des connaissances, il les a automatisées, solidifiées, et bien après, c'est difficile de déconstruire. Et donc, il faut du temps, de la répétition, de l'expérience aussi. Il va falloir encore, quelques générations d'êtres humains qui vont répéter les mêmes choses que nous répétons depuis plusieurs générations pour que ça rentre et que ça s'infiltre dans notre société. Mais je crois que c'est tout à fait normal et naturel, il faut simplement déconstruire et je crois que nous sommes en train d'y arriver.
pour retourner à ces lois naturelles de l'évolution personnelle pour chacun, peut-être qu'il faut mettre les êtres humains, évidemment les enfants, mais globalement tous les êtres humains, beaucoup plus en présence de la nature. Et en vous lisant, je me suis dit peut-être que c'est aussi ça qui fait qu'il y a un problème dans l'éducation, un problème fondamental et réel. C'est vrai que quand on est dans un environnement qui nous coupe des lois fondamentales de la nature, comment retrouver en soi justement ces ressorts que nous proposent les lois naturelles, Céline Alvarez?
Oui, complètement. Ça, c'est vraiment pour moi un très gros sujet. Bon, difficilement applicable et au sein de l'éducation nationale actuellement, quoique des mairies sont en train de réfléchir à revégétaliser les environnements scolaires. Et je crois vraiment que c'est une question essentielle. Un enfant qui grandit, des adultes aussi, qui grandissent dans des environnements naturels, avec des arbres, de la terre, des cailloux, des bâtons, où les enfants peuvent tomber sans se faire mal sur une pelouse plutôt que sur un sol rasé et aseptisé par du goudron, eh bien ces enfants-là vont développer de meilleures capacités émotionnelles, sociales, cognitives, une meilleure mémoire. Donc c'est pas rien, une meilleure régulation au stress. Donc nous faisons partie d'un écosystème et si nous cherchons à faire grandir nos enfants en dehors de cet écosystème naturel auquel nous appartenons et dont nous avons besoin pour vivre, eh bien nous allons former une intelligence humaine peut-être dévié ou au moins en sous-potentiel. Ou abîmé, quoi. Il y a quelque chose qui n'est pas pleinement épanoui et qui fatigue les enfants.
Dans ce que vous dites, Céline Alvarez, je retrouve à nouveau Rousseau et son Émile. Alors, il y a évidemment des choses très étranges dans l'Émile que nous pourrions plus du tout supporter à notre époque, mais il y a aussi des choses très étonnantes, surtout quand on pense que ça a été écrit à une époque où que nous imaginons être plus proches de la nature. Et vous allez voir que dans ce texte, Rousseau, en réalité, ne dit pas autre chose que ce que vous dites. Et déjà au XVIIIe siècle, il a le sentiment que l'homme s'est accroupi, en fait, quand il s'est éloigné de la nature. C'est dans le livre 2 de l'Émile. « Notre manie enseignante et pédantesque est toujours d'apprendre aux enfants ce qu'ils apprendraient beaucoup mieux d'eux-mêmes et d'oublier ce que nous aurions pu seuls leur enseigner. » Y a-t-il rien de plus sot que la peine qu'on prend pour leur apprendre à marcher, comme si l'on en avait vu quelqu'un qui, par la négligence de sa nourrice, ne sut pas marcher étant grand? Combien voit-on de gens, au contraire, marcher mal toute leur vie parce qu'on leur a mal appris à marcher? Émile n'aura ni bourrelet, ni panier roulant, ni chariot, autant d'instruments qui aidaient les enfants à marcher, ni lisière, ou du moins, dès qu'il commencera de savoir mettre un pied devant l'autre, on ne le soutiendra que sur les lieux pavés et l'on ne fera qu'y passer en hâte. Il n'y a rien de plus ridicule et de plus mal assuré que la démarche des gens qu'on a trop menés par la lisière étant petits. C'est encore une de ces observations triviales à force d'être justes et qui sont justes à plus d'un sens. Au lieu de le laisser croupir dans l'air usé d'une chambre, qu'on le mène journellement au milieu d'un pré. Là qu'il court, qu'il s'ébatte, qu'il tombe 100 fois le jour, tant mieux, il en apprendra plutôt à se relever. Le bien-être de la liberté rachète beaucoup de blessures. Mon élève aura sûrement des contusions. En revanche, il sera toujours gai. Si les vôtres en ont moins, ils seront toujours contrariés, toujours enchaînés, toujours tristes. Je doute que le profit soit de leur côté.
Les discussions du soir. Des discussions du soir, Lélie Anvar.
Céline Alvarez, une remarque sur ce passage dans lequel je crois vous vous retrouvez tout à fait. C'est presque mot pour mot ce que vous venez de nous dire.
Exactement, c'est presque mot pour mot finalement. Je suis très surprise d'entendre ça parce que c'est presque mot pour mot ce que j'ai écrit dans le livre. Et voyez, ça me rappelle encore une chose que j'ai voulu faire passer avec ce livre, c'est qu'il faut vraiment, réellement, qu'on dépasse l'idée de méthode nominative, c'est-à-dire qu'il faut arrêter de penser qu'il faut suivre la méthode d'un tel ou de l'autre, donc de Montessori ou de Freinet ou de Steiner ou de Pestalozzi ou je ne sais qui. Il faut se pencher sur la méthode de l'enfant. Là, Rousseau le disait, alors il le dit de cette manière-là, mais aujourd'hui, on peut tout à fait traduire tout ça de manière scientifique. disons qu'on sait aujourd'hui que l'esprit humain ne peut pas réellement être enseigné de l'extérieur. Mmh. Il lui faut des expériences. Ça ne servira à rien de lui répéter ce qu'il faut faire ou ce qu'il ne faut pas faire. Il doit le vivre par sa propre expérience. Et c'est ce qu'on appelle, c'est ce qui est permis par le mécanisme qu'on appelle aujourd'hui bayésien. C'est-à-dire qu'il faut que l'esprit humain puisse faire des projections sur le monde extérieur. Il faut qu'il y ait ensuite qu'il soit surpris entre sa projection et la réalité. Et c'est ce décalage finalement entre sa projection et la réalité du monde extérieur qui va créer un effet de surprise. Et c'est pendant cet effet de surprise que les circuits neuronaux se réajustent. Donc il faut qu'il y ait expérience, il faut qu'il y ait engagement, il faut qu'il y ait surprise. Et c'est le seul moment où le cerveau humain va réajuster ses circuits neuronaux et va apprendre véritablement. Donc il faut que comme le dit, comme vous venez de le lire là, il faut que les enfants... On ne peut pas... Je vais même le dire autrement. On parle beaucoup de pédagogie active. Finalement, ce dont parle Rousseau, là, c'est de pédagogie active. Mais ce que je trouve puissant, c'est qu'aujourd'hui, grâce aux sciences du développement humain, on peut dire que le terme de pédagogie active est un énorme pléonasme. Oui. Il n'y a pas de pédagogie qui ne soit pas active. L'être humain...
Ou sinon, c'est de la mauvaise pédagogie.
Ce n'est pas de la pédagogie. Voilà. L'être humain apprend par sa propre expérience en faisant des erreurs. Et en étant accompagné, soutenu. Finalement, il ne s'agit que de ça. Et c'est ce que nous disent aujourd'hui les neurosciences, c'est ce que disait Rousseau à l'époque, c'est ce que disait Maria Montessori, c'est ce que disait déjà Edouard Séguin, et tant d'autres, même Tolstoï l'avait perçu dans ses moments de recherche pédagogique. Il s'agit simplement de soutenir ce qui se manifeste et qui préexiste et qui va chercher à se déployer, à se développer avec force à certains moments donnés de l'existence. C'est ce qu'on appelle des périodes sensibles. Pour le coup, Maria Montessori les avait clairement perçues chez les enfants. Alors, pas forcément avec les bons mots, elle n'était pas encore à l'époque bien mise en lumière par la science, mais c'est ça en fait. Il faut peut-être arrêter de vouloir absolument enseigner par l'extérieur, par des injonctions extérieures, l'esprit humain. Il faut lui donner de l'expérience, un environnement riche, beaucoup d'étayage et de soutien humain. Pas seulement de la part d'un adulte, mais également avec des enfants d'âge différent.
Oui, alors ça, c'est ce qu'il y a d'ailleurs de très, très intéressant dans votre livre et qui en fait l'originalité parce qu'en effet, comme vous le dites vous-même, vous ne faites que mettre en lumière des travaux qui ont déjà été faits, mais simplement vous les mettez en lumière et en relation.
C'est
ce qui est très intéressant, c'est que, par exemple, vous prenez effectivement les travaux de Maria Montessori et vous montrez en quoi les sciences cognitives aujourd'hui, qui sont extrêmement développées, en fait montrent qu'elle avait raison, oui. Précisément, dans son approche. Et en même temps, en vous lisant, je me disais, mais ce livre, on pourrait le refaire sans nécessairement... parler des enfants. Alors c'est vrai,
ah oui.
C'est vrai que c'est un livre qui invite tous ceux qui sont de près ou de loin en relation avec des enfants à réévaluer, je dirais, leur approche, pas leur méthode, mais leur approche. Mais ça va pour moi beaucoup plus loin. Tout ce que vous venez de dire, au fond, tous les grands maîtres de sagesse le disent aussi. C'est-à-dire l'effet de surprise, le fait que quand on est confronté un hiatus, en fait, entre ce que l'on croit et ce qui est, ou entre ce que l'on voit ou ce que l'on ne voit pas, l'expérience intérieure qu'on a d'une réalité invisible, etc. Au fond, c'est ça qui amène la démarche de la connaissance. Est-ce que vous seriez d'accord pour dire qu'au fond, votre approche est en ce sens hautement spirituelle?
Je ne sais pas si je peux dire que c'est hautement spirituel, ça l'est certainement. Vous savez que c'est un sujet très glissant dans le monde de l'éducation.
Je le sais. Donc, je ne vais pas dire religieux.
Donc, je vous laisserai vous faire votre propre idée, mais c'est une démarche et une approche éminemment aimante, croyante et engagée.
Je précise croyante, vous voulez dire en l'humanité,
dans
les potentiels de l'humanité.
Dans les potentiels, les capacités et la lumière de l'esprit humain, oui. J'ai une forte, forte confiance, croyance et envie de protéger ça.
Alors, la raison pour laquelle, d'ailleurs, je dis ça, c'est parce que finalement, il y a plusieurs lignes de force dans votre réflexion. La première est la question de la liberté. Et ça m'a beaucoup intéressée parce que on a quand même tendance à penser qu'il ne faut pas laisser les enfants trop libres, d'abord parce qu'il faut les protéger d'eux-mêmes, contre eux-mêmes. Et vous avez une vision très intéressante de la liberté, à nouveau, qui peut aussi s'appliquer à tout un chacun. C'est-à-dire que la liberté, Encore faut-il qu'on soit dans un environnement qui nous permette d'être intérieurement libre. C'est pas la question de ne pas empêcher l'enfant de traverser la rue, bien sûr, mais bien de lui apprendre pourquoi il ne faut pas qu'il traverse la rue et que librement il consente à ne pas traverser la rue en dehors des clous. Est-ce que j'ai bien compris en fait votre propos sur la liberté, Céline Alvarez?
Oui, parce qu'en fait, vous utilisez le mot de liberté, moi j'utilise le mot d'autonomie, mais c'est la même chose finalement. Mm-hmm. Ce qui est fondamental pour moi, central et très précieux, et c'est vrai que c'est ce sur quoi j'ai axé toute mon attention auprès des enfants à Gennevilliers, c'était leur rendre cette autonomie, pas uniquement l'autonomie des gestes du quotidien et de savoir se débrouiller seul au quotidien pour s'habiller, manger, se coiffer ou que sais-je, mais c'est une autonomie beaucoup plus profonde, donc une liberté finalement beaucoup plus profonde, qui est cette autonomie qui va leur permettre de pouvoir, dans la vie quotidienne et dans leur vie future, qui va leur permettre de pouvoir atteindre les objectifs qu'ils se fixent, d'abord de savoir se fixer des objectifs, d'avoir confiance en ses ambitions, ses rêves, oui, les objectifs qu'ils se fixent, avoir confiance, pouvoir se les fixer et ensuite être capable de créer les conditions autour de soi et en soi pour atteindre ces objectifs-là, malgré tout l'environnement extérieur qui pourra aller parfois contre l'objectif que l'enfant se sera fixé. C'est même pas créer cette autonomie chez l'enfant, parce qu'elle existe déjà. Les enfants, quand ils sont tout petits, qu'ils ne sont pas encore allés à l'école et qu'on n'a pas encore éduqué, eh bien, ils ont tout à fait confiance en leurs objectifs, qui sont d'ailleurs souvent bien plus ambitieux que ceux que nous leur fixerions. Et ils se débrouillent pour y arriver et pour les atteindre, souvent même en bravant les interdictions. Et ils y vont, quoi. Et ils arrivent, par l'expérience, ensuite à comprendre ce qu'il faut faire, ne pas faire, pour atteindre leurs objectifs et aussi comprendre ensuite quelles sont les grandes lois de la morale et des comportements sociaux pour savoir ce qu'il faut faire ou pas. Ben, c'est tout simplement, voilà, c'est permettre aux enfants, c'était tout mon objectif, de conserver cette liberté intérieure puissante qui les mène et leur permet de faire toutes les conquêtes qu'ils ambitionnent.
Oui, parce que vous parlez beaucoup de, bien sûr, des apprentissages, des premiers apprentissages, comment on apprend à lire, comment on apprend à compter. En même temps, vous évoquez beaucoup cette idée que l'enfant a naturellement soif de connaissances et que c'est quand même une tragédie que l'école lui rende la connaissance aussi pénible et que finalement il renonce au savoir parce que ça devient pénible. Mais au-delà, votre objectif, c'est quand même pas seulement de faire des enfants ou qui seront plus tard des adultes érudits, mais quand même bien de faire des adultes qui sont des êtres humains à part entière. Et la dimension éthique, pour vous, et me semble-t-il, est tout à fait centrale quand même dans l'éducation. C'est-à-dire, bien sûr, il y a de longs chapitres sur comment concrètement enseigner les mathématiques ou la lecture, mais ce vers quoi ça pointe, c'est quand même d'en faire des êtres humains à part entière, c'est-à-dire des êtres humains qui s'inscrivent dans une relation éthique. Est-ce que, finalement, c'est pas ça l'objectif ultime de toute forme d'éducation, même si finalement on n'apprenait même pas à lire et écrire? C'est nécessaire, bien sûr.
Exactement. Je pense que c'est pas. On peut aller jusqu'à faire cette caricature parce que, justement, ce qui a été beaucoup critiqué avec cette expérience de Gennevilliers, c'est qu'on disait mais à quoi ça sert de faire lire les enfants, enfin de faire lire, surtout qu'on ne les a pas fait lire, c'est qu'ils se sont mis à lire à 3-4 ans, à faire des opérations à 4 chiffres à 4 ans ou à 5 ans. À quoi ça sert? On s'en fiche un peu. Et tout à fait, je suis vraiment d'accord. Il se trouve que lorsque l'on respecte ces lois fondamentales d'apprentissage et d'épanouissement et qu'on crée un environnement riche et respectueux, qui est respectueux de ces mécanismes autour de l'enfant, eh bien, ils vont développer tout leur potentiel embryonnaire, cognitif, sociaux, moraux, créatifs, et au passage, ils vont apprendre par eux-mêmes, par leur expérience, à lire, à écrire, à compter beaucoup plus rapidement que ce qu'on aurait pu penser possible. Et bien sûr, l'objectif qui était le mien, et je pense l'objectif de nombreuses personnes qui réfléchissent à l'éducation, entre guillemets, la plus optimale, eh bien, c'est de permettre à l'être humain de révéler, de déployer ses pleins potentiels qui existent à l'état embryonnaire dès sa naissance. Parce que c'est ça que je trouve qui est merveilleux et qui, moi, m'a complètement fascinée, parce que j'avais cette intuition-là, mais de le voir écrit noir sur blanc par les recherches actuelles, c'est que l'être humain ne naît pas avec un cerveau vierge de tout savoir, où tout serait à construire. Il y a déjà un pré-câblage magnifique, extraordinaire, où on a un cerveau humain adulte qui est déjà là, avec des circuits neuronaux qui sont déjà là esquissés. Tout est déjà là à l'état latent. Il n'y a plus qu'à créer des conditions qui vont permettre à ces potentiels, au sens du nombre, parce qu'on a déjà des réseaux neuronaux qui codent le sens du nombre, des quantités, que le potentiel de langage puisse se développer, les potentiels cognitifs, les potentiels empathiques, les potentiels éthiques, on a tout ça déjà pré-câblé. Et je trouve ça fabuleux. Donc, il s'agit simplement de permettre, en créant des conditions favorables à l'extérieur, par l'épigénétique finalement, de permettre à l'être humain de révéler ses pleins potentiels. Et c'est d'abord ça. Et au passage, et ayant de bonnes compétences cognitives développées, une belle confiance en soi, un bon sens de l'empathie, avec des bonnes compétences sociales et morales, il se trouve que si l'environnement lui offre la culture que les générations précédentes ont construite avant lui, eh bien l'être humain s'en empare, tout simplement, et très facilement. C'est pas du tout un problème pour un enfant de 4 ans de lire. C'est extrêmement simple de lire. C'est simple, c'est décodé. C'est-à-dire que une lettre code un son. Bon, bah, très bien. Quand on a donné à l'enfant le son que la lettre codait, il suffit simplement de décoder. C'est très simple. C'est un jeu. Les enfants aiment faire ça.
Oui, mais alors ça se mesure, Céline Alvarez. C'est-à-dire, vous avez fait faire des mesures, très scientifiques. On évalue, etc., pour voir où on en est au plan des savoirs ou des savoir-faire. Mais est-ce que le degré d'humanité ou d'altruisme ou d'éthique, bon, évidemment, ça n'a pas duré assez longtemps, cette expérience, pour que vous puissiez peut-être nous en parler, encore que vous donnez quand même quelques exemples de choses qui se sont produites. Mais est-ce que ça peut se mesurer? Et surtout, est-ce que vous ne vivez pas, enfin, on pourrait vous en faire le reproche, est-ce que vous n'avez pas une vision un peu d'un monde de bisounours? C'est-à-dire que tout le monde est bon à la naissance et qu'il suffirait que chacun puisse développer cette bonté en lui. Est-ce qu'il n'y a pas quand même des gens qui sont plus bêtes que d'autres, des gens qui sont plus méchants que d'autres? Naturellement, on voit des enfants d'une même fratrie, un est un peu méchant et l'autre est plutôt gentil, donc ils ont reçu la même éducation, le même contexte. Mais est-ce que vous reniez pas la part aussi de l'âme, de la nature, de l'être, du caractère? On pourrait vous faire quand même ce reproche que vous viviez dans un monde trop idéal où tout le monde serait bon.
qu'on me le fasse, que chacun pense ce qu'il souhaite. Il se trouve que par mon expérience personnelle, et j'ai vécu des choses extrêmement difficiles, mais toujours j'ai vu, au fond, quand il y a des choses difficiles qui se produisent dans les relations humaines, ou quand quelqu'un commet des actes difficiles, il y a toujours derrière une part de souffrance immense. Immense. Donc après, on compose chacun comme on peut avec cette part de souffrance et on réagit chacun comme nous pouvons au mieux ou pas. Et il se trouve que par mes expériences personnelles, je me suis toujours aperçue, et Gennevilliers en est un très bel exemple, qu'il suffit, en recréant des conditions chaleureuses, de confiance, avec beaucoup de liens humains, empathiques, chaleureux, entre les enfants, mais aussi entre les adultes. Enfin bref, quand on redonne à l'être humain ce dont il a besoin pour se développer et se nourrir psychiquement correctement, c'est-à-dire de l'amour, quand on lui redonne beaucoup d'amour et de confiance, et de, quand je disais tout à l'heure de croyance, il faut que chacun ait la possibilité d'avoir quelqu'un qui a une confiance sereine et solide en lui. On a besoin de ça pour grandir et évoluer correctement. Et si ça s'est apporté, alors il n'y a pas de raison que les choses se passent mal. Ou alors, il y en aura d'autres, mais il faut toujours aller chercher la cause. Et si je dis ça, c'est pas... Après, certains pourront dire que j'ai une vision bisounours, mais je m'en fiche complètement. parce que d'abord, je suis très convaincue de ce que je suis en train de dire. J'ai été confortée par les expériences, mais aussi par la science. Et ça me rend extrêmement heureuse et joyeuse, parce que ce n'est pas seulement une opinion personnelle, et c'est ça qui est intéressant dans le débat de l'éducation, c'est qu'il faut aujourd'hui non pas apporter des opinions personnelles, mais des faits scientifiques. Et il se trouve qu'il y a des centaines de chercheurs maintenant, depuis des années, qui travaillent sur justement ces potentiels innés, moraux, empathiques de l'être humain. Et on sait aujourd'hui, je veux dire, le chercheur Paul Bloom le dit lui-même dans ses livres et dans ses interviews, l'être humain naît avec des potentiels moraux innés. Il préfère le bon et fronce les sourcils devant le mauvais. Mmh. Voilà, c'est comme ça.
Et les enfants sont naturellement altruistes. Il y a des expériences qui montrent que tout petit déjà, ils sont dans une démarche d'aide, en fait. Mais quand ils sont tout petits... Et puis après,
il s'aperçoit vite par les habitudes que les adultes vont avoir. Il s'aperçoit qu'il faut peut-être plus aider les membres de sa famille que les autres. Il commence à avoir un peu plus peur de l'inconnu. Mmh. Mais ça dépend vraiment, c'est complètement corrélé avec l'état d'esprit de la famille. C'est-à-dire que cette capacité et cette tendance à s'isoler un peu non pas à s'isoler, mais à se méfier de l'autre, bien sûr, elle existe naturellement, c'est nécessaire pour la survie aussi, mais elle se déploie et elle se développe selon le schéma familial, selon ce que les parents transmettent à leurs enfants. Et oui, des expériences ont montré de manière assez remarquable et émouvante que les enfants, lorsqu'ils sont encore dans cette dynamique endogène, qui n'a pas encore été parasité par l'éducation extérieure, ils aident des gens qu'ils ne connaissent pas et qui ne demandent même pas leur aide. Ils le font spontanément. À 14 mois, des enfants qui marchent à peine ou qui marchent mais pas très bien, ils vont spontanément aider un adulte qui se trouve dans la même pièce qu'eux, qui n'a pas demandé d'aide, mais qui se trouve en difficulté. Les enfants qui savent à peine marcher vont aller jusqu'à enjamber des obstacles, lâcher des jouets merveilleux qu'ils ont entre les mains pour aller aider, et une fois que cette aide a été apportée, ils retournent en escaladant les obstacles, ils retournent à leurs jouets merveilleux. Il y a un besoin d'aider l'autre et ce que je trouve fabuleux, je terminerai là-dessus parce que je pourrais m'emporter et ne plus m'arrêter sur ces sujets-là, mais c'est que la nature récompense l'être humain de manière endogène, intrinsèque, lorsque nous avons des comportements altruistes, généreux, bienveillants.
Alors ça, j'aime beaucoup tous vos passages sur les hormones, là, qui s'agitent dès qu'on fait le bien.
Dès que nous sommes dans un échange attentionné, bienveillant, empathique, eh bien, il y a une décharge de dopamine dans le cerveau humain. Et la dopamine, c'est les circuits de la récompense, donc ça génère enthousiasme, plaisir, motivation, allant, et donc ça nous encourage à recommencer. Ce que nous n'avons pas du tout dans les relations où nous rejetons l'autre, où nous critiquons, où nous sommes dans le jugement. Au contraire, c'est des sécrétions de cortisol qui arrivent dans le cerveau, donc c'est le cortisol qui est la molécule du stress et qui endommage les circuits neuronaux, sans parler de pour tout ce que ça génère de nocif, de délétère dans tout le métabolisme. Mais ça, c'est merveilleux. C'est-à-dire que là, il n'y a pas de nuance. C'est-à-dire que pour la nature, quand on va au niveau biologique, on peut peut-être dire ça comme ça, au niveau biologique, nous sommes encouragés à aller, à nous relier les uns aux autres, à nous reconnecter les uns aux autres. Et à l'inverse, nous sommes découragés à aller dans des relations de jugement, des comportements qui tendent à la séparation physique et psychique.
Oui, mais alors Céline Alvarez, on pourrait aussi être à la fois saisie par votre enthousiasme, que je partage complètement. Dans cette émission, nous ne cessons de parler de ces choses et de tourner autour. Nous avons la conviction que c'est possible, bien sûr. Mais il y a des mais, bien sûr. Le plus important me semble être le fait que vous parlez en fait de très jeunes êtres en devenir, sur lesquels on peut agir. Est-ce que quand on est devenu adulte, ou quand on est déjà devenu adolescent, et on voit comment la violence est présente au sein de ces communautés d'adolescents, et puis après ça continue bien sûr dans la vie adulte, est-ce que cette conversion hormonale presque, au bien, est-ce qu'elle est possible à des moments plus tardifs de la vie, et surtout à quelles conditions, dans le sens où vous parlez du fait que l'adulte doit se comporter comme ça avec l'enfant pour développer en lui l'altruisme. Mais encore faut-il que l'adulte ait lui-même cette confiance en lui, cette potentialité d'altruisme développée. Encore faut-il qu'il se soit éduqué lui-même profondément, qu'il soit devenu lui-même un être humain pour pouvoir le transmettre, ou sinon le transmettre, au moins créer les conditions qui permettent à l'enfant de devenir cela. Et ça, c'est une tâche qui paraît quasiment impossible à mener. C'est-à-dire, c'est des milliards d'habitants sur cette terre qui devraient entrer dans un travail de reconquête d'eux-mêmes avant de pouvoir reconquérir le terrain de la pédagogie. Céline Alvarez.
Il y aurait tellement de choses à dire. Je ne sais pas comment je vais résumer tout ce qui me traverse l'esprit là maintenant. Mais non, ce n'est pas impossible. Oui, c'est difficile, mais ce n'est pas impossible pour plein de raisons. Donc, j'essaie d'attraper une première idée que j'ai au passage. Alors, certes, c'est beaucoup plus difficile parce qu'effectivement, nous avons une plasticité cérébrale extrêmement forte dans les premières années de vie qui se poursuit ensuite tout au long de la vie, mais effectivement qui diminue. Donc, il est plus difficile ensuite de remodeler les circuits neuronaux. Donc, si nous avons eu un adulte aujourd'hui qui a eu dans son enfance un environnement familial, humain, qui lui a transmis des schémas pas forcément chaleureux et empathiques, ça va être compliqué pour lui de restructurer, de réagir. Ajuster tous ces circuits neuronaux parce qu'il va devoir, parce qu'ils ont été construits comme cela, et il va devoir se placer dans des environnements qui vont lui permettre de réorganiser ces circuits neuronaux en ayant d'autres exemples finalement. Il lui faut d'autres expériences qui vont lui permettre de réorganiser tout cela au niveau, dans l'intimité de sa boîte crânienne pour ensuite pouvoir à nouveau faire d'autres projections sur le monde et s'apercevoir que ça peut fonctionner autrement. Alors bien sûr, quand nous sommes adultes ou adolescents, ça prend plus de temps. Et il faut beaucoup plus de temps, de confiance et d'amour. Parce que comme je le disais tout à l'heure, je ne l'ai pas dit d'ailleurs, mais c'est que quand nous sommes dans des relations empathiques et chaleureuses et de confiance, quand un adulte a ce comportement-là envers un autre adulte, il va permettre la sécrétion dans le cerveau de l'autre de molécules bienfaisantes que sont l'ocytocine, la sérotonine, et la dopamine et même les endorphines. C'est-à-dire que la personne envers qui nous sommes bienveillante, eh bien, va avoir des sécrétions de molécules qui vont favoriser le développement de l'empathie. C'est ce que permet l'ocytocine, qui est la molécule du lien. Donc, c'est que, en étant empathique avec l'autre, même si ça nous semble difficile d'aider quelqu'un qui n'est pas dans ce mode de fonctionnement-là, il faut savoir que, quoi qu'il arrive, biologiquement, c'est comme ça, on ne peut pas lutter contre. Et c'est la bonne nouvelle, c'est que quand nous sommes empathiques avec quelqu'un, malgré notre volonté, il va y avoir un impact moléculaire dans son cerveau qui va lui favoriser le développement de l'empathie, du sens moral, de la capacité à prendre des décisions plus appropriées. Ça va générer aussi plus de bien-être, des émotions plus stables, une humeur plus stable avec la sérotonine et puis surtout un élan, une motivation endogène, une confiance solide parce que c'est ce que va générer la dopamine aussi. Donc, en résistant à l'idée que c'est difficile, que c'est impossible, et en se positionnant dans une démarche de croyance, c'est-à-dire je peux avoir un impact sur l'autre par mon propre comportement positif, je pense qu'on va réussir on va faire des miracles. J'y crois vraiment profondément.
Merci beaucoup Céline Alvarez de ce témoignage. Bah, y a plus qu'à s'y mettre, oui. Je dirais, et tout de suite. Et on en verra les effets très très vite. Je rappelle le titre de votre ouvrage paru aux éditions Les Arènes, Les lois naturelles de l'enfant, qui a obtenu le prix Psychologie Magazine, notre partenaire pour cette émission Psychologie Magazine, dans le numéro de février, en fait, on va justement vous retrouver, Céline Alvarez. Je voudrais aussi signaler à nos auditeurs qui s'intéresseraient à ces questions qu'il va y avoir un colloque le samedi 4 février à la Mutualité sur le thème « La conscience et l'invisible », colloque au cours duquel ils pourront retrouver Frédéric Lenoir, Jean Stone, mais aussi le docteur Moody et Alexander Eben qui vont venir parler d'expériences, en fait, de modification de conscience, en tout cas venir parler de la question de savoir où se situe finalement cette conscience. Ce n'est pas sans relation avec les travaux, beaucoup de travaux d'ailleurs que vous citez, Céline Alvarez, dans votre ouvrage. C'était les discussions du soir par Lélie Anvar, attachée de production Thierry Beauchamp, réalisation Clotilde Pivin, prise de son Delphine Baudet. Excellente fin de soirée à tous.